Vous écoutez
RMC.
RMC,
l'after foot, Nicolas Jamain. L'after sur RMC, 23h18 avec Stéphane Guy, Kevin Diaz et Julien Laurence qui est avec nous au studio ce soir à Paris. J'accueille tout de suite, avant qu'il prenne la route direction la France, Christophe Lelichon. Bonsoir Christophe.
Bonsoir, vous allez bien ?
Très bien, bon, il y a deux hommes que vous connaissez, je crois personnellement, en l'occurrence Stéphane Guy et Julien Laurence. Un mot sur eux rapidement Christophe peut-être ? Lequel vous préférez ?
Non, c'est nous qui allons dire à vous Christophe.
Je ne peux pas répondre à ce genre de questions, mais c'est vrai que j'ai une relation de longue durée avec M. Stéphane Guy.
Je suis très déçu, voilà, je suis très déçu que tu ne me cites pas d'abord quand même, Christophe. Faut
pas aller.
C'est ce qu'il vient de faire.
Vous avez presque le même âge en plus.
Christophe, pour ceux qui ne vous connaissent pas,
Christophe,
ouais. Vous avez déjà parlé dans l'after, vous avez déjà reçu dans l'after. Je rappelle votre parcours très brièvement. Entraîneur des gardiens du FC Nantes, puis de Rennes, vous avez rencontré Peter Cech qui vous emmène avec lui à Chelsea en 2007. Depuis 2016, vous étiez responsable du poste dans l'ensemble du club de Chelsea. Bilan, en 15 ans, 2 Ligues des Champions, 1 Europa League, 3 championnats d'Angleterre. Bravo Christophe, parce que il faut le dire, rien ne nous assure ce soir que sans vous, Chelsea n'aurait pas gagné la Ligue des Champions 2 fois et la Première Ligue 3 fois.
Surtout la première.
Ouais.
La finale de 2012. Quand on se retourne, Christophe, sur les 15 ans, est-ce que c'est ça qui vient comme ça en flash immédiat?
Ah, le flash immédiat, c'est déjà d'être resté 15 ans dans un club comme Chelsea.
Ouais, bien sûr.
Je pense que je suis pas loin de certains records pour un étranger travaillant en Angleterre dans le même club. Après, le sommet de ces 15 ans, en effet, ça a été 2012. Parce que j'ai pas envie de parler de la deuxième Ligue des Champions. Quand on n'est pas sur le banc, on n'est pas concerné de la même manière. La première, bon, j'étais quand même sur le banc, oui. On a tellement bien bossé avec les gardiens que ça a aidé l'équipe et le club à gagner cette première Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment le... Ah, c'est l'immense cerise sur le grand gâteau.
Voilà. On rappelle aux plus jeunes qui nous écoutent que cette finale de 2012 a été gagnée par Chelsea au tir au but face au Bayern Munich.
À Munich. Moi j'y étais dans la tribune.
À Munich.
Et Drogba qui réveille Chelsea.
Et voilà. Et Petr Cech a été l'homme du avec Didier Drogba évidemment, Christophe. Mais tout avait été. Moi je me rappelle d'une émission qu'on a faite en 2012, pardon, une semaine après cette finale où tu nous avais décortiqué la séance de tir au but. Tir au but par tir au but, et je crois que Petr Cech part du bon côté chaque fois, non ?
Au total, il y a 6 pénalties pendant la finale, un pendant les prolongations, et il part 6 fois du bon côté, et il en détourne 3.
Voilà. Bon, et c'était pas le hasard.
C'est pas le fruit du hasard.
Raconte-nous un petit peu quand même, parce que c'est un moment assez extraordinaire l'histoire du foot.
Bah, raconter, c'est surtout en amont, parce qu'après, il y a les faits, mais il y a en amont. J'avais étudié tous les pénalties du Bayern de 2007 à 2012, enfin, tous ceux qui concernaient les joueurs présents lors de la finale. Et j'avais une quinzaine de points d'analyse sur chaque pénalty. Donc au total, j'avais 31 minutes de pénalty. C'est pas ce qui est le plus passionnant, mais je me suis attaché à faire ça. On avait 3 semaines pour préparer le match. Il fallait bien sûr aussi analyser les routines offensives du Bayern. Ils avaient quand même quelques bons joueurs. Mais l'intérêt majeur était pour moi de faire partager cette préparation à l'ensemble des gardiens. Donc il y avait Rostenbull, Enrique Hilario, l'actuel entraîneur des gardiens de l'équipe première, Jamal Blackman et bien sûr Petr qui lui recueillait les informations. Et c'est vrai que les gars m'ont un petit peu surpris parce que quand le matin du match, on se réunit dans ma chambre, comme souvent je demandais un mur blanc dans la chambre parce que j'avais mon vidéoprojecteur, on s'est fait une séance cinéma, il manquait que des complexes. Et quand les gars ont commencé à sortir leur bout de papier pour me dire ce qu'ils avaient vu, ils avaient chacun un joueur à analyser. Et ils ont sorti leur petit bout de papier. J'ai trouvé ça génial parce que ça a été un moment de partage exceptionnel entre 5 personnes qui ne voulaient qu'une chose, la réussite de Petr pour la réussite du club.
Mais c'était un coup de terrible pour les joueurs du Bayern qui voulaient fêter leur titre en Ligue des Champions dans leur stade devant leurs supporters.
Et c'est une leçon pour les supporters parisiens, Christophe. C'est quand même sans doute l'année où on s'y attend le moins côté Chelsea. Avec un autre entraîneur,
avec Di Matteo, oui.
Ah oui, parce que André Villas-Boas s'est évincé courant mars.
C'est ça. Ouais.
Et vous remarquerez que souvent, quand Chelsea a gagné une coupe européenne, il y a un changement d'entraîneur à mi-saison.
Ouais, c'est vrai.
C'est arrivé souvent. C'est assez dingue ce club. Ce club, moi, j'ai connu 8 entraîneurs différents. Le club en a connu. Alors, il faudrait faire l'addition rapide. Mais sous l'ère de Monsieur Abramovich, c'est 21 titres en 20 ans. Et c'est pas loin de une quinzaine d'entraîneurs. Donc on dit que la stabilité normalement est la mère de la réussite. Il se trouve que dans ce club, il y a des gènes, il y a quelque chose qui demande la victoire. Et c'est ce qui est arrivé à Thomas Tuchel lorsqu'il est arrivé à Chelsea.
Et tous les titres de club possibles, hein, puisque avec la Coupe du Monde des clubs, Christophe, au mois de décembre, là, c'était le dernier qui vous manquait en fait en tant que club, en plus dans ta génération à toi aussi. C'est assez incroyable.
C'était comment de travailler avec Thomas Tuchel, même si vous n'étiez plus entraîneur des gardiens de l'équipe première, mais de l'ensemble du poste à Chelsea. Quelle relation vous aviez avec lui, Thomas Tuchel? Nous, on en garde un bon souvenir hein, en tant que journaliste.
Alors, je l'ai rencontré deux fois, mais il faut bien préciser que la période de Covid, malheureusement, faisait que nous travaillions par bulle, par bulle et par département, et qu'il n'y avait bien sûr aucun déplacement possible d'une bulle à une autre. Et la bulle des professionnels était très protégée, évidemment, et donc même avec Petre, qui est moi, mon bureau était dans le first team building, comme on dit, et ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas allé.
Et y a un entraîneur qui t'a marqué, Christophe, pendant, justement, parce que t'as quand même connu une sacrée ribambelle de noms, hein, Ancelotti, Mourinho, Scolari,
Benitez, ouais. Alors, celui avec qui ça s'est, celui qui m'a marqué par son humanité et aussi ses compétences, évidemment, c'est Carlo Ancelotti. Carlo voulait que les gens soient, on répète toujours la même chose avec Carlo, hein. Carlo voulait que les gens soient heureux et il partageait, et il n'était pas. Moi, je me souviens qu'il a manifesté une grande joie quand il a su que dans son staff, il y avait un type qui fumait aussi, parce qu'il était le seul, il pensait qu'il serait le seul à fumer, et on s'est retrouvé. Il est arrivé, on est parti très rapidement aux USA, et il m'a dit, Chris, viens vite, on va à l'extérieur de l'aéroport, faut qu'on s'en grilline. Et ça a dû le rassurer, le mettre en confiance. Non, mais c'était un type génial. Après, chacun avait ses particularités. Rafa Benitez avait une connaissance du football extraordinaire. Je l'ai vu travailler parfois en fin d'entraînement avec David Luiz, John Terry, en faisant des exercices qui pourraient paraître de gamins, mais il les mettait en difficulté sur la réflexion. Et c'était absolument passionnant. Voilà. Le fait de connaître plusieurs entraîneurs, ça s'est pas tout super bien passé avec tous, avec chacun d'entre eux, mais ça m'a aussi permis de progresser, de m'adapter et de m'enrichir quelque part de mon métier d'entraîneur.
Bon, Christophe, on va pousser l'after jusqu'à 1h du matin, je pense, que c'est passionnant. vous prendrez la route demain, je pense, pour rentrer en France.
Mais là, vous savez ce qui se passe actuellement, c'est que je suis normalement dans un restaurant avec Petr Cech, Carlo Cudicini et quelques autres personnes dont je leur ai dit je m'échappe.
Non, mais on va pas abuser de votre gentillesse. Julien avait une question à vous poser, Christophe.
Te demander, il y a des joueurs que tu connais dans la finale de samedi, Mo Salah, que tu as vu assez rapidement au club, mais surtout Thibaut Courtois. Comment ça s'était passé tous les deux à Chelsea? Quel bilan comment tu le qualifierais aujourd'hui? On dit qu'il fait partie des meilleurs du monde, peut-être avec Alisson, c'est peut-être les deux plus performants cette saison. Voilà, comment toi tu regardes un petit peu le parcours qu'il a eu, comment vous avez travaillé ensemble et ce qu'il est devenu aujourd'hui?
C'est surtout toi qui vas le chercher à Genk, Christophe.
Oui, j'insiste auprès du club, auprès de monsieur Abramovich pour le recruter, parce que le jour où je suis allé le voir, j'ai vu l'information qu'il y avait un gamin qui commençait à jouer à Genk. Je ne suis pas le premier, hein, c'est Hoffenheim qui l'a découvert en premier, le club d'Hoffenheim en Allemagne. Écoutez, quand je vois le premier match, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer devant mes yeux. Et je demande au club tout de suite de s'intéresser à lui. Bien sûr, quelques semaines après, on n'est plus les seuls, loin de là. Et Thibaut a un choix énorme devant lui. Et je fais peut-être quelque chose que les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire que je demande à Marina Granovskaya d'inviter toute la famille, y compris l'agent, pour qu'on passe la journée ensemble à Stamford Bridge et à Cobham. Et là, la famille est surprise parce que d'abord Thibaut ne vient pas, parce qu'ils ont passé un accord avec le club de Genk pour que Thibaut n'ait aucun contact avec un club possible pour son avenir. Donc, et on passe la journée avec papa, maman, l'agent. Et je leur fais visiter les choses, je leur explique les méthodes d'entraînement, etc., etc. Et je n'ai aucun contact avec Thibaut Courtois jusqu'au mois de juin de l'année donc 2013, il me semble. J'attends un coup de fil. Et au mois de juin, il m'appelle pour me dire, Monsieur Hichon, j'ai choisi. Donc je vais vous donner ma réponse. Donc j'espérais qu'une chose, c'était que. Et en effet, il me dit, j'ai choisi Chelsea. Et là, on le prête à l'Atlético. Et puis il arrive 3 ans après, il arrive chez nous, c'est José Mourinho qui prend la décision de le faire jouer. Donc ça se passe très très bien la première année où il est très performant. J'avais fait peut-être 40 déplacements en Espagne ou 50 déplacements où je lui présentais le football anglais au fur et à mesure des 3 années qu'il avait passé à l'Atlético. Et la première année était géniale. Petr était encore là. Petr a été magnifique avec lui aussi parce que Petr a quand même été un peu relégué sur le banc. Mais il a été extrêmement professionnel. Et quand Petr est parti, après, bon, la relation, c'est un petit peu compliqué. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail.
Oui.
Je dirais simplement que Thibaut Courtois, c'est sans doute le plus doué de tous, qu'il pourrait être au sommet de la pyramide pendant des années et des années. Je crois, et je continue à le dire, c'est ce que j'avais dit à son papa, je crois qu'il a tellement de talent que son talent seul peut lui permettre d'évoluer au plus haut niveau. Maintenant, je pense qu'il a mûri un petit peu, d'après ce que j'ai entendu dernièrement, il a compris certaines choses, et je l'espère. Et ça se voit aussi, même si je pense qu'il reste encore un petit peu trop parfois dans sa zone de confort. Mais il peut être monumental, tout simplement.
Quel est aujourd'hui le gardien le plus complet, si ce n'est Thibaut Courtois? On vous écoute, Christophe Lichon. Je ne sais pas ce que vous pensez de Mike Maignan, par exemple.
J'allais demander.
À Milan, nous, on loue ses qualités, ses week-ends en Serie A, et le meilleur gardien de Serie A.
Il est vraiment impressionnant.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est sans doute le gardien qui a le... La preuve, c'est qu'il est parti au Milan. C'est le gardien français qui avait le plus de chances de s'exporter.
Oui.
Et en plus, il s'exporte en Italie, où vraiment il fait presque tâche parmi les gardiens italiens. Quand je dis tâche, c'est une tâche positive, parce que il apporte quelque chose que peu de gardiens italiens réalisent, à savoir qu'il est très proactif dans son approche du match. Il joue assez haut et essaie de couvrir un espace important, ce qui n'est pas tout à fait dans la culture italienne du poste. Donc c'est pour ça aussi qu'on le voit. Mike Maignan est efficace. Il l'a montré à Lille. Il montrera bientôt en équipe de France. Et donc c'est un gardien qui a des qualités athlétiques, physiques de premier plan. C'est un gardien qui a une taille très intéressante à ce poste. Il sait jouer, il joue au pied, son jeu au pied est très fluide. Donc en effet, il est premier à une très belle carrière. Et je lui souhaite une chose, c'est de venir en Angleterre se frotter à ce football. Ce football,
le meilleur football du monde, évidemment.
Du coup, j'ai envie de vous demander, forcément, puisqu'il a remplacé Donnarumma et qu'on a maintenant le gardien italien au PSG. Qu'est-ce que vous pensez justement des différences entre les deux gardiens ou
Tu parles de Navas et Donnarumma.
Non, je parle entre Maignan et Donnarumma. Maignan, Donnarumma. Et Donnarumma, qu'est-ce qui doit encore progresser? Dans quel domaine doit-il encore progresser selon vous?
Et vous parlez de Donnarumma?
Ouais.
Ouais. Bah, Donnarumma, il y avait Donnarumma. Alors, je vais essayer de pas être trop cash.
Vous pouvez, Christophe.
Ouais, mais après je me méfie parce que j'ai des retours de bâton. J'avais déjà essayé quelques-uns. Donnarumma, quand il a fini l'Euro, il a fait un Euro extraordinaire, Donnarumma. Et c'est la suite de deux années d'entraînement avec un nouvel entraîneur au Milan AC qui lui a fait comprendre le fait qu'avec sa taille, son intelligence, il pouvait prendre beaucoup plus de place. Et c'est ce qu'il s'est acharné à faire sur les deux dernières années au Milan, où il a fait attention aussi à sa nutrition, ça s'est vu parce qu'il avait maigri. Et il arrive à Paris, et là à Paris, il tombe avec Navas. Il vous met en concurrence deux gardiens, tout à fait différents l'un de l'autre. D'ailleurs, Navas a été performant, et puis grand respect à Monsieur Navas et tous les trophées qu'il a gagnés au plus haut niveau. Mais ce sont deux gardiens différents. Et là, Paris, bon, n'étant pas dans les coulisses du transfert, n'étant pas au quotidien au camp des loges, je ne sais pas quel discours est tenu. Mais je me demande encore aujourd'hui pourquoi un club comme Paris prend deux gardiens aussi différents, ce qui oblige la défense à jouer différemment en fonction du gardien qui joue. Donc ça, c'est quelque chose en tant que professionnel, je ne peux pas comprendre. Vous avez un Navas qui joue assez bas, qui n'est pas trop dans la proactivité et qui est très très bon quand le bloc parisien est un petit peu dépassé, comme contre Barcelone et le Bayern de Munich en Champions League. Et là, on voit Navas dans toute sa splendeur. Mais dès lors que un bloc joue haut, Navas n'est pas quelqu'un qui va beaucoup anticiper dans la profondeur. Ce qu'avait appris à faire Donnarumma. Et ce qui me choque aujourd'hui dans les matchs que j'ai vus, parce que j'ai beaucoup observé cette situation m'intéressait. Je vois un Donnarumma qui doute. Mmh. Et on voit même un Navas qui commence à douter aussi. Et voir un Donnarumma qui doute après deux années de vraiment d'une très très belle évolution, bah ça fait un petit peu suer quoi. Alors maintenant, quel club va faire le PSG? Officiellement, apparemment, c'est Donnarumma, mais il se dit des choses encore qui pourraient laisser penser le contraire. Donnarumma, faut qu'il retrouve.
C'est-à-dire, vous avez des infos ou pas?
Non, on entend des choses. J'en ai certainement moins que vous déjà. On entend sûr. Navas qui dit qu'il faut des explications.
Oui, oui. Navas, il dit surtout qu'il est sous contrat, hein, mais c'est un petit peu importante dans le foot.
On a entendu Navas il y a un mois et demi qui disait qu'avec la situation s'éclaircisse. Le PSG semblait par médias interposés vouloir dire que Donnarumma était numéro 1. Et on entend à la fois Navas il y a quelques jours
qui dit qu'il veut rester finalement à Paris, qu'il est très heureux ici.
Il est sous contrat.
Oui, il est sous beau contrat aussi, c'est ça aussi la clé, Christophe. J'avais une dernière question à vous poser, Christophe, avant de vous libérer et de vous permettre de retrouver Petr Cech. On a du mal à imaginer comment le poste de gardien peut encore évoluer tellement il a évolué ces dernières années, notamment vous parlez des gardiens proactifs. On en connaît en Ligue 1 notamment, c'est ce que veut Sampaoli avec Paul Lopez et ce qu'il essaie de faire avec Steve Mandanda. Comment le gardien de 2030 sera, par exemple? Comment il peut encore évoluer, ce gardien?
Il va évoluer parce que je pense, enfin, j'espère en tout cas, que dans les formations, dans les centres de formation, dans les académies, on va encore mieux préparer les gardiens à l'évolution que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, il y a un de vos confrères qui m'a appelé pour me dire, vous avez vu toutes les erreurs des gardiens en ce moment? Ben, ouais, en effet, ils se sont régalés avec les erreurs des gardiens, que ce soit Neuer, que ce soit Edouard Mendy. On n'a pas parlé d'Edouard Mendy, mais qui est dans le top mondial aussi.
Et, que t'as contribué, plus que contribué à faire venir à Chelsea, ouais, au passage, quand même. Mmh,
tout à fait.
Ils peuvent te remercier pour ça.
Oui, merci. Non, merci Stéphane.
Bah oui.
Et aujourd'hui, j'espère que dans les académies, on va préparer les gardiens de demain mieux qu'on a préparé les gardiens d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des erreurs, c'est que tous les gardiens de 26, 27 ans, 28 ans n'ont pas forcément eu cette formation. Et comme le football évolue vers plus de jeux, même s'il ne faut pas oublier qu'il faut savoir aussi prendre la décision de jouer long, faut pas tomber dans le football gnangnan qui consiste à ne jouer court. Donc je pense que le gardien de demain, normalement, devrait être extrêmement complet et surtout avoir cette capacité de prise de décision pour savoir s'il faut jouer court, savoir s'il faut jouer long. Et sans oublier tout le travail technique nécessaire. Mais le gardien de but, je vais le répéter pour la 200e fois, mais c'est un joueur de champ qui a le droit d'utiliser ses mains. Et dès lors qu'on aura compris ça, eh bien peut-être qu'on changera quelque peu la période de formation. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de freins, quoi qu'on en dise, il y a encore beaucoup de freins. Et quand j'entends certains commentaires sur certains médias, je me dis qu'il y a encore du boulot à faire.
Stéphane avait une question. Non, dernière question à vous poser.
Ouais, d'abord, saluer quand même, parce que ce qu'il a dit, Christophe, est vrai. C'est-à-dire un Français qui passe 15 ans dans le staff d'un club aussi grand que Chelsea, c'est unique. Moi, j'ai pas de. Évidemment, il y a Arsène Wenger à Arsenal. Pour le reste, j'ai pas d'autres. Il y a un kiné aussi qu'on peut saluer d'ailleurs à Chelsea qui s'appelle Thierry Laurent, qui était Thierry dans Laurent. Le staff des Bleus en 98 et qui est arrivé presque en même temps que toi ou un peu avant toi. Je sais pas comment c'est passé.
Il est arrivé 2 ans avant moi.
Voilà. Donc, et lui, il est encore là.
Il est encore là.
Salut à Thierry Laurent. Juste, Christophe, justement, 15 ans à Chelsea, il y a eu avant Rennes, il y a eu Nantes, il y a eu toute cette expérience. Là, t'es en pleine bourre. C'est quoi demain, Christophe Lelichon? C'est quoi tes envies, tes projets? Est-ce que la France est une possibilité d'exercice de fonction ou pas?
Alors, j'ai très envie de retrouver la compète. Ça, c'est indéniable. Donc, à Chelsea, c'était difficile d'aller vers cet objectif. Donc, j'ai vraiment envie de retrouver la compète. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y aura des appels? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Et puis, j'ai envie aussi d'être au service des gardiens, pas qu'au travers de la compète. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance autour du poste et que les gens qui entourent les gardiens n'ont pas toujours toutes les compétences pour comprendre la mentalité, la psychologie du gardien. Et je pense aussi aux gardiens qui sont au chômage. En France, vous avez plus de 35 gardiens de but qui sont au chômage. Tous ne peuvent pas jouer en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Première Ligue. Mais il y en a qui peuvent vivre du foot et parfois ils galèrent. Et j'ai envie d'aider ces gens-là avec mon ami Jean-Charles Berton, avec peut-être une structure qui leur permettra de rebondir et en préparant aussi l'avenir et l'avenir qui suit la période de football. Donc j'ai envie de donner beaucoup à ce niveau-là.
Eh bien, c'est passionnant, mon cher Christophe Lelichon. On vous réinvite très vite dans la sphère RMC, qu'on est de retour en France, bien sûr. C'était un bonheur de vous écouter. Puis je rappelle également que vous avez déniché un espoir, un jeune gardien français qui s'appelle Sami Tlemcen, qui a rejoint Chelsea, qui arrive du Paris FC. Vous l'avez soufflé à Chelsea. Aujourd'hui, il est à Londres désormais, depuis 2020. L'épisode Scouting d'ailleurs, à retrouver, un podcast Scouting excellent avec Benoît Boutron et Loïc Tanzi, notamment cet épisode 16 sur Sami Tlemcen. Merci encore mille fois, Christophe Lelichon. Bonne route, soyez prudent. Et vous venez quand vous voulez à RMC. On vous accueille avec plaisir, bien sûr.
D'accord, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Christophe.
Un bon moment de radio. Un bon moment d'after, les gars. Prendre le temps de parler d'un poste avec un homme qui est une référence.
Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision élevée de son métier, qui a un niveau de pratique assez extraordinaire et qui a surtout le goût du partage. On l'a vu là, c'est-à-dire qu'il aime partager son expérience. Julien et moi l'avons côtoyé, évidemment, et toujours quand même dans le respect et de sa fonction et des clubs où il évolue.
Mais on pourrait parler des heures et des heures.
Et on va le refaire, on va le réinviter. Ce serait assez dingue, d'ailleurs, au passage, mais ce serait assez français, malheureusement, mais ce serait assez dingue qu'un club français ne se saisisse pas de la période actuelle. Il avait été en question de lui à Lyon il y a un an ou deux, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant.
Écoute, il a déjà fait une partie de la côte atlantique, Rennes, Nantes, il peut descendre un peu plus au sud et s'arrêter en Aquitaine.
Bon, là, il
faut en Ligue 2, quoi. Je pense
qu'il sera plus entraîneur.
Ligue 2, faut qu'il vienne.
C'est pour faire du bénévolat, là.
Petite pause, les gars. On revient dans un instant. On va parler mercato, transfert. Et Julien, tu seras très précieux. On parlait de Moussa Diaby, Lucas Paqueta, Harry Kane, Mo Salah par exemple. Sadio Mané aussi, pourquoi pas, qui va parler, il l'a dit, après la finale de Ligue des Champions samedi soir. Où ira-t-il? Le Bayern, peut-être. Paris n'est jamais battu. On en parle dans un instant, dans l'after avec Stéphane, Kevin et Julien, tout de suite.
L'after foot, 20h, minuit
messieurs AMC.